Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous savez quand même, vous reconnaissez. C'est pas un couteau ni une dague. C'est une épée. Hein. Une épée. Ce matin, en fait, on va parler de la parole de Dieu. Voilà. On va parler de la parole de Dieu en tant qu'épée de l'esprit. Et de son lien, en fait, étroit avec non seulement le salut, mais aussi la prière. Donc, je vais vous lire la conclusion d'une lettre qui nous est adressée à tous. Il s'agit d'une circulaire. Je vous la lis. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Alors, vous aurez reconnu en fait la lecture d'Éphésiens 6, les versets 10 à 18, qui sont en fait la conclusion de l'épître aux Éphésiens. Donc, un texte hors de son contexte est un prétexte, on va déjà voir le contexte ensemble. Donc, l'épître aux Éphésiens a été écrit par l'apôtre Paul au moment où il est incarcéré à Rome. On situe à peu près la date d'écriture entre 60 et 62. Et en fait, il écrit cette lettre à peu près en même temps qu'il écrit l'épître aux Colossiens et l'épître à Philémon. Hein? Épaphras, qui vient de l'église de Colosse, vient lui apporter des nouvelles de l'église de Colosse. Et les nouvelles, en fait, ne sont pas très bonnes. Et moi, j'ai appelé ça, en fait, l'église de Colosse subit une crise qui vraisemblablement se répand à toutes les églises d'Asie mineure, où l'apôtre Paul, en fait, a voyagé. Et cette crise, je l'ai appelée la crise des hérétiques en manque de pouvoir, tout simplement parce que y avait des faux prophètes, des faux docteurs qui s'immisçaient dans l'église, qui arrivaient à prendre des places importantes et qui en profitaient pour diffuser des doctrines hérétiques. Voilà. Donc l'épître en fait aux Éphésiens, comme vous le savez, est divisée en deux parties. La première, c'est une partie plus théologique qui parle du salut, et la seconde est plus une partie pratique sur tout ce qui est vie d'église. Et donc la conclusion, c'est le passage qu'on vient de lire, qui traite du combat spirituel et de l'armure de Dieu, et pas l'armure du chrétien. C'est pas l'armure du chrétien que vous avez dans vos traductions, c'est l'armure de Dieu, voilà, que le chrétien doit endosser, mais c'est l'armure de Dieu. Et il finit évidemment par ses salutations finales propres à Paul. Et dans la version grecque, les deux versets qui vont nous intéresser plus particulièrement ce matin, ce sont les versets 17 et 18, qui sont une seule et même partie dans la version grecque. Ça forme un seul et même verset. Et c'est pour ça que j'ai décidé ce matin de voir ensemble uniquement ces deux versets. Donc, j'ai essayé de reconstituer et de réadapter le texte pour vous faire justement une seule et même partie des deux versets, et ça pourrait donner ça. Recevez le casque du salut, empoignez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et faites monter vers lui vos supplications et intercessions, sans distinction, mais avec persévérance. On a bien le salut de présent, la parole de Dieu, épée de l'esprit, qui est le pivot, et on va avoir la prière qui va venir aussi bien s'intégrer à la parole de Dieu. Alors, l'idée que je voulais développer avec vous ce matin, l'idée principale, c'était que avancer dans le sillage de Dieu nécessite sa parole et la prière afin de ne pas s'en écarter. Encore faut-il accepter de se mettre dans le sillage divin. Et ça, c'est le salut. C'est accepter le salut en Jésus-Christ. On va voir trois points ce matin, comme vous l'avez bien compris. Le premier point, c'est le salut en Jésus-Christ, qui est la seule condition pour saisir l'épée de l'Esprit. J'en connais pas d'autre. La parole de Dieu, une arme puissante, qui nécessite d'apprendre à la manipuler et de le faire avec précision. Et la corrélation entre épée de l'Esprit et prière. Alors, le verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Le salut en Jésus-Christ, seule condition pour saisir l'épée de l'Esprit. Comme on l'a dit et on l'a vu dans le passage, le salut en Jésus-Christ est pour moi la seule condition pour pouvoir bien saisir, bien comprendre, bien utiliser la parole de Dieu. Sinon, ça ne reste qu'intellectuel. Ça reste un livre, finalement comme les autres, peut-être un bon livre d'histoire, un livre religieux, mais pas plus. Blaise Pascal a écrit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide a la forme de Dieu. » Paul, qui écrit l'Épître aux Éphésiens, sait de quoi il s'agit quand on parle du salut. Il l'a développé au cours de plusieurs de ses épîtres. Paul, le pécheur, devient Paul, le grand disciple du Christ. Paul, pour rappel, est celui qui persécutait les chrétiens, qui a ordonné l'arrestation d'Étienne. Il était sans doute présent même lors de sa lapidation. Mais Paul rencontre le Christ, il décide de donner sa vie à Christ et il décide de le suivre. Et comme l'a dit Cécile, il décide d'aller porter la bonne nouvelle. Paul le pécheur devient un des plus grands disciples du Christ. Et le Saint-Esprit nous éclaire quant à la compréhension de la parole de Dieu. Donc le salut en Jésus-Christ, c'est aussi le fait de recevoir l'Esprit Saint. Et on voit l'analogie avec l'épée de l'Esprit. Comment comprendre la parole de Dieu en tant que parole de Dieu si on n'est pas revêtu du Saint-Esprit? Sans l'Esprit, pas d'épée de l'Esprit. Le salut en Jésus-Christ. Alors le salut en Jésus-Christ, j'avais envie de faire une précision. Le salut, c'est pas de donner sa vie à Christ. Le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas lui donner sa vie. Le salut en Jésus-Christ, c'est de lui rendre la vie qu'il nous a donnée. Le salut en Jésus-Christ, c'est de lui rendre la vie qu'il nous a donnée. Et c'est donc la seule condition pour saisir l'épée de l'Esprit. Pour retirer Excalibur de l'enclume, il fallait un cœur pur. Le jeune Arthur fut le seul à pouvoir sortir l'épée. C'est intéressant parce que là, on parle d'un casque, le casque du salut. Alors, c'est intéressant que la parole de Dieu nous invite à mettre un casque pour pouvoir, avant de manipuler l'épée de l'Esprit. Alors le casque du salut, il ne se met pas à moitié, hein. Pas comme les jeunes en scooter qui le mettent jusque là, en arrière, hop, ou alors un jour sur deux. Ça se met vraiment entièrement, pleinement, le casque du salut. Le salut, c'est être conscient de la vérité, ceinture, avec un grand V, il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au Père que par lui, comme le dit le 135 dans le J'aime. C'est prendre conscience que la justice de Dieu et de son amour, cuirasse, c'est courir vers lui et vers les autres avec zèle pour la parole de l'Évangile. Hein, ça, c'est les chaussures. C'est avoir foi en Jésus-Christ, le bouclier. Et c'est accepter le salut, le casque, pour pouvoir porter la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Et rentrer dans le vrai combat, dans notre combat, frères et sœurs, dans le combat pour notre éternité. On va voir la parole de Dieu, une arme puissante. La parole de Dieu est une épée, et c'est la seule arme offensive de l'arsenal divin. Si vous relisez le passage, il y a beaucoup d'armes qui permettent de nous protéger, mais il n'y a qu'une seule arme qui permet de riposter. La seule arme offensive, c'est l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est la seule parce qu'elle est suffisante pour le combat. Encore faut-il savoir la manipuler avec habileté et ne pas la dévouer. Il ne faut pas se tromper de cible. La puissance de l'épée de l'esprit nécessite d'apprendre à la manipuler. Comme je vous disais, c'est la seule arme offensive de l'arsenal divin. Et c'est la seule source d'autorité pour nous, chrétiens. Je suis en train de lire un livre de Sébastien Fatt, que je vous recommande, du Ghetto au réseau, c'est une étude du protestantisme. Et il développe bien cet aspect-là, que pour nous, en tant que protestants, contrairement aux catholiques, où une des sources d'autorité suprême pour les catholiques est aussi le pape, hein, chez nous, il n'y a que la parole de Dieu, et elle est suffisante. Voilà. La parole de Dieu, comme dit l'adage grec, sola scriptura, l'écriture seule. Alors, voyons quel est son pouvoir. Le pouvoir de la parole de Dieu en tant qu'épée de l'esprit est développé en hébreu. C'est intéressant parce qu'on n'est pas certain du tout que ce soit l'apôtre Paul qui écrit l'épître aux hébreux, puisqu'on ne connaît pas l'auteur. Mais en tous les cas, deux auteurs différents dans la parole de Dieu traitent de cette image de l'épée de l'esprit. De la parole de Dieu en tant qu'épée de l'esprit. Et voilà quelle est la description en hébreu 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre ou séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Alors, vivante au sens littéral, puisque la parole de Dieu est incarnée en Christ. Dans le préambule de l'évangile de Jean, au tout premier verset, on trouve « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole est Dieu. Et on voit tout de suite le lien entre la parole de Dieu et la Trinité. Dès les premiers versets de la Bible, le Dieu est présent, le Dieu trois fois saint. Sont présents Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu a pour rôle de nous transmettre les commandements de Dieu, de nous révéler le Christ et le salut en Jésus-Christ, et tout ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Puisque les 66 livres de la Bible ont été écrits par une multitude d'auteurs inspirés qui ont trouvé l'inspiration dans le Saint-Esprit et non dans leur propre intelligence, dans une inspiration humaine. Donc la parole de Dieu établit clairement le lien entre la Trinité et elle est vivante et efficace tout simplement dans la vie des chrétiens. Elle porte du fruit, le but de la parole de Dieu c'est de porter du fruit. C'est pas juste que ça soit un livre sympathique à lire, qui nous fait chaud au cœur en tant que chrétien, le soir ou le matin, selon votre heure pour la lire, ou les deux. Le but, c'est qu'elle soit vivante en nous et qu'on puisse la transmettre, comme l'a dit encore une fois Cécile tout à l'heure. Vivante et efficace. Et là, je vous renvoie à Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Encore une fois, l'analogie entre l'esprit et la parole de Dieu. C'est une épée, on a dit. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. La parole de Dieu est bel et bien une arme, frères et sœurs, et c'est l'arme spirituelle par excellence. L'épée de l'esprit, n'est pas juste, selon moi, une métaphore paulinienne, mais c'est pour moi une vérité spirituelle, une vérité bien réelle. Pénétrant la suite du passage d'Hébreux 4:12, dit, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre, séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Alors là, je m'arrête un petit peu, j'ai une recommandation à nous faire, et à moi le premier. Quand vous allez ouvrir la parole de Dieu, en tant qu'épée de l'esprit, donc en tant qu'enfant de Dieu, le premier être que la parole de Dieu va sonder, c'est le vôtre. Et en général, j'ai peu d'expérience dans la vie chrétienne. J'ai 30 ans, ça fait la moitié de ma vie que je suis converti et baptisé. Mais je sais que la parole de Dieu va là où ça fait mal. Et que si on est sincère et humble devant le Seigneur, la parole de Dieu va nous sonder et on risque de passer par des moments difficiles. Mais Dieu nous transforme et il veut vraiment qu'on apprenne aussi à se rapprocher de lui et à manipuler cette épée de l'esprit pour sa gloire. Le pouvoir qui est décrit là, c'est le pouvoir de séparation absolue en vue de la justice de Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste, juste et bon, mais un Dieu juste. Et là, la parole de Dieu sert à sonder nos cœurs, à sonder les cœurs et à juger les dispositions du cœur. L'impact, en fait, n'est pas d'ordre corporel, mais il est spirituel. Car, en fait, le bon combat est avant tout spirituel. Le titre que vous devez avoir dans vos Bibles pour ce passage, pour cette conclusion d'Éphésiens, ça doit être le combat spirituel, si je ne me trompe. Je vais citer un pasteur, c'est le pasteur Itty, qui a écrit « La Bible n'est pas un livre magique, ni un traité mystérieux de théologie auquel on rend un culte sans réflexion pour en recueillir automatiquement les faveurs que réservent certaines religions aux seuls initiés. Non, au contraire, il faut soigneusement l'étudier car la puissance ne réside pas dans la lettre qu'il suffirait finalement de réciter superstitieusement, mais elle réside dans l'esprit qui s'en dégage. Si je nous encourage à pratiquer le plus souvent possible la parole de Dieu, c'est qu'elle est l'épée de l'esprit et qu'elle doit être manipulée avec précaution. D'où la nécessité de bien savoir s'en servir. L'épée de l'esprit à manipuler avec précaution et précision. Si nous ne savons pas nous servir de l'épée de l'esprit, nous allons soit nous blesser nous-mêmes, soit blesser les autres. Nous blesser nous-mêmes par des mauvaises interprétations, blesser les autres tout simplement parce qu'on se trompe de cible. J'aime bien tout ce qui est chevalier et épée. Et mon fils en a eu d'ailleurs hier. Et je trouve l'analogie assez forte avec ce passage-là pour la simple et bonne raison, c'est qu'en lisant quelques livres médiévaux, vous vous rendrez compte que, tout simplement, les chevaliers ne partaient pas comme ça en guerre. Hein, l'épée à la main, ils se préparaient, ils mettaient une armure, comme Dieu nous invite à le faire, et ils s'entraînaient à manipuler l'épée. C'est de leur épée que dépendait leur vie au combat. Et ils devaient s'entraîner tout simplement pour ne pas se blesser eux-mêmes, mais pour ne pas blesser les autres aussi. Et l'épée de l'esprit mérite qu'on s'attarde pour essayer d'apprendre à la connaître, à la manipuler, à connaître Dieu, à savoir tous les trésors qu'elle renferme, pour pouvoir, à l'occasion, la manipuler avec soin et précision. Il ne faut pas dévouer la parole de Dieu. J'ai encore une recommandation, excusez-moi. Mais dévouer, ça veut dire dévier du sens, dévier de la trajectoire. Attention, frères et sœurs, il ne faut pas se tromper de cible quand on utilise la parole de Dieu. Lors du week-end d'église dernier, pour ceux qui étaient présents, André Wilkinson a cité quelque chose qui m'est resté et que je ressors souvent. André Wilkinson a dit que l'armée du Christ est la seule armée où on achève les blessés. C'est malheureusement vrai. Ça fait sourire quand on entend ça comme ça. Mais L'épée de l'esprit n'est pas là pour être utilisée contre un frère ou une sœur. Si vous utilisez la parole de Dieu pour un frère ou une sœur, même pour le redresser, vous l'utilisez comme une lampe pour l'éclairer, parce qu'il est parti dans une voie obscure. Mais en aucun cas, vous l'utiliserez contre un frère ou une sœur en tant qu'épée de l'esprit. Et ceux qui me connaissent savent que je suis pour la résolution des conflits, avec appuyé sur la parole de Dieu. Mais je pense que la parole de Dieu, la première, nous invite à l'amour fraternel et à des relations construites sur des bases saines. Ça exclut totalement de s'en servir comme épée pour blesser son frère ou sa sœur. Et ce passage d'Éphésiens nous indique quelle est la cible. Et en aucun cas, j'ai pu lire que la cible était un frère ou une sœur. La cible de la parole de Dieu en tant qu'épée de l'esprit sont les puissances célestes, les puissances des ténèbres. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde, de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Comme je vous disais tout à l'heure, dans vos Bibles, vous avez comme titre le combat spirituel. Alors, ne nous trompons pas de cible, mais ne nous trompons pas non plus de combat. Le combat est bien spirituel. Hein? Comme dit Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il parle bien là du bon combat. L'épée de l'esprit permet le combat, mais pour combattre, il faut parfois aussi riposter. Et on a vu au tout début que c'était la seule arme offensive de l'arsenal divin. L'épée de l'esprit permet le combat et elle permet la riposte. Elle permet la riposte par rapport à l'adversaire lors des tentations. Le meilleur moyen de se défendre, c'est l'attaque, comme dit l'adage. Si vous vous contentez de prendre juste un bouclier, une cuirasse, un casque, comment vous allez riposter quand vous allez être attaqué ? Si vous n'avez pas une arme offensive pour contre-attaquer, mais l'adversaire qui vous attaque, il va vous attaquer jusqu'à temps que vos défenses cèdent. Je trouve rassurant, on chantera à la fin de la prédication, le chant « Quel ami fidèle et tendre ». Et je trouve rassurant, dans ce chant, le fait que même quand on n'a plus la force, c'est lui qui tient l'épée. C'est Jésus qui tient l'épée. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Et plus loin dans le chant, car c'est lui qui tient l'épée, c'est lui qui décide du combat. Combien de fois ça vous est arrivé d'être avec des amis, de la famille, des collègues, et puis d'un seul coup le sujet de la religion arrive sur la table, et puis on ne sait pas trop comment s'en dépatouiller, on ne sait pas trop quoi dire, on est un peu mal à l'aise, on a le front un peu trempé peut-être, et puis il y a un verset qui sort, une parole, plusieurs, basée sur un ou plusieurs versets, et on ne sait même pas comment c'est sorti. C'est sorti tout seul comme ça. Ça c'est l'épée de l'esprit, frères et sœurs, qui vient à votre secours. Et quand il y a un combat spirituel, le moment venu, même si vous ne l'avez pas vu arriver, soyez rassurés que c'est Dieu qui décide du combat. Et que si vous avez à parler demain au travail de religion avec un ou plusieurs collègues, c'est que Dieu l'a décidé. Et qu'il vous donnera les moyens pour que vous puissiez vraiment toucher le cœur de vos collègues, de vos amis, de votre famille. On va terminer par la corrélation entre l'épée de l'esprit et la prière. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Alors tout comme il y a un lien, je pense, entre le casque du salut et l'épée de l'esprit, il y a pour moi un lien très fort entre la prière et l'épée de l'esprit et la parole de Dieu. Tout simplement parce que, comme je disais en introduction, les versets 17 et 18, à l'origine, sont qu'un seul verset, enfin qu'une seule partie, dans la version grecque. Donc du coup, il semble logique que les trois soient traités ensemble, puisqu'ils, pour moi, ils sont interdépendants. La parole de Dieu et la prière, même discours, même combat. Je pense qu'il faut rester soudé dans l'adversité, et on a eu plusieurs occasions dans l'Église de rester soudé dans la prière, avec des épreuves que les uns et les autres avons traversées, et de prier les uns pour les autres, est pour moi essentiel. Et le verset 18 que vous avez au vidéoprojecteur nous apprend comment prier. Et je pense que l'analogie, que ce soit dans la pratique, entre la pratique de la prière et la pratique de la parole de Dieu, n'est pas fortuite. Pour être efficace, il est nécessaire de pratiquer la prière et la parole de Dieu par l'esprit, avec persévérance et sans distinction ni de personne, ni de passage biblique. Alors par l'esprit, tout simplement, je pense que quand on commence à prier, il est bon d'invoquer le Saint-Esprit pour notre moment de prière, aussi bien quand on ouvre la parole de Dieu. Et il est bien aussi de prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Je pense que c'est utile, et pour l'avoir négligé pendant des années, j'en vois les fruits maintenant que je le fais, et je vous encourage à le faire. Avec par l'esprit, en premier, nous avons dit, et avec persévérance. Dans certaines versions, dont celles que j'ai lues, il y a marqué une vigilance, vous avez une vigilance inlassable. Alors vigilance, le but, ce n'est pas de dépier pour prier, hein, de savoir d'avoir une vigilance, d'être vigilant au sens d'espionner ou d'épier. Vigilance, c'est tout simplement ici avec persévérance. C'est-à-dire que vaut mieux prier régulièrement un petit peu que de s'essouffler au bout de quelques jours, quelques mois. Le but, c'est de cultiver cette continuité et cette persévérance à la fois dans la pratique de la parole de Dieu comme dans la prière. Persévérer dans la pratique régulière et même quotidienne à la fois de la prière et de la parole de Dieu pour être tout simplement nourri en profondeur et expérimenter une relation journalière avec Dieu. Comment connaître Dieu si on ne prend pas du temps avec lui régulièrement, si on ne prend pas... Et ça nécessite de la persévérance et de la volonté. Combien de fois je me suis retrouvé à arrêter de prier? Je me faisais une liste de personnes pour qui prier. Je ne sais pas si vous faites ça aussi. Puis je la mettais dans la Bible, ou je l'oubliais des fois dans la Bible précédente, etc. Et puis, prier 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis au bout de quelques temps, fini par prier pour les personnes, comme si elles n'en avaient plus besoin. Je pense qu'il vaut mieux éviter de se disperser, mais plutôt cultiver la persévérance dans la prière, comme dans la parole de Dieu. Sans distinction. Alors là, sans distinction pour personne, ni aucun passage biblique. Il n'y a pas de loge VIP, frères et sœurs, pour l'intercession. Il y en a dans les matchs de foot ou de rugby, mais pas dans l'intercession, ni dans la parole de Dieu. C'est pas parce que vous préférez Pierre, Paul ou Jacques qu'il faut prier pour eux et oublier Barnabas et Judas, quoi. Pour la parole de Dieu, c'est pareil. Et moi, il y a des livres que j'adore dans la parole de Dieu. Puis il y en a d'autres avec lesquels j'ai du mal. Tout ce qui est généalogie, par exemple, c'est vrai que des fois, c'est un peu plus délicat. Mais je pense que même si nous préférons certains passages bibliques et certains livres, je pense qu'il faut aussi voir que la parole de Dieu, c'est 66 livres qui forment un tout harmonieux et que sans distinction de livre ni de passage biblique, inclut aussi cette notion de lire la Bible dans son ensemble pour bien la comprendre. Voilà. En conclusion, c'est en accueillant l'Esprit de Dieu et l'Évangile que le chrétien possédera la puissance et la force du Christ à l'intérieur de l'Église. Il sera protégé alors par l'armure de la grâce et il apprendra à manier l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Soutenus mutuellement par l'intercession et nourris par le Christ lui-même, nous pourrons congédier Satan, repousser ses tentations et rester fermes dans la foi de notre Sauveur Jésus-Christ. J'ai trois encouragements pratiques pour nous ce matin. Le premier, c'est que si ce n'est pas votre cas ce matin, que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à le faire et à le faire rapidement. Si pour vous la parole de Dieu est juste un bouquin, que c'est juste quelque chose d'intellectuel ou de religieux ou les deux, alors je vous invite vraiment à rendre la vie que Christ vous a donnée. Pardon. La deuxième chose, et je pense que c'est pour la majeure partie ici présent le cas, si vous êtes déjà enfant de Dieu, je vous encourage à prendre du temps, à prendre le temps nécessaire pour pratiquer la parole de Dieu et à demander de l'aide si besoin. Il n'y a pas de honte à faire les choses, même si c'est à demander de l'aide et à faire quelque chose avec de l'aide, mais je pense qu'il y a plus de honte à rester, à ne rien faire, de peur de demander de l'aide ou de ne pas vouloir en demander, tout simplement. Donc je vous invite vraiment à la CLC et différentes ligues pour la lecture de la Bible proposent des manuels et des guides pour la lecture de la Bible en un an, deux ans. Et si deux ans, ça vous fait trop juste, mais prenez le temps qu'il vous faudra pour la lire et pour bien l'assimiler, pour bien la méditer. Ce n'est pas une course, la lecture de la Bible, contre le voisin. Le but, c'est vraiment de se l'approprier à soi, que Dieu vous parle à vous. Dieu va vous parler comme il n'aura jamais parlé aux frères d'à côté, et inversement, il sait, il connaît vos cœurs, il vous parlera en fonction de votre expérience, votre sensibilité, ce que vous vivez. Et je nous encourage à prier. Et alors, dans le bulletin, on prie toutes les semaines pour plusieurs personnes, et je trouve que c'est une très bonne habitude. Je trouve que c'est une très bonne habitude qu'il faut garder, et même chez vous, prendre le bulletin, prier pour les personnes pour qui on prie pendant la semaine. N'hésitez pas, si vous ne faites rien demain soir, à venir à la réunion de prière. C'est à 19h. Voilà. Je fais de la pub en plus. Voilà les trois encouragements que je voulais nous laisser. Le salut en Jésus-Christ, pratiquer la parole de Dieu et prier les uns pour les autres. Amen.